Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants, le quiz biblique en direct avec Jérôme. N'hésitez pas à participer.
Bonjour à tous, amis auditeurs, amis auditrices de Radio Maria France. Et oui, c'est le quiz biblique. Et bonjour Sandrine.
Bonjour Jérôme.
Voilà, c'est donc... voilà quoi.
Oui, donc voilà quoi.
Alors c'est parti. Je vous rappelle que le principe, il est simple. On a besoin de vous pour jouer, puisqu'il y a des petites questions auxquelles il faut répondre, bien ou à côté, peu importe, c'est pas grave. On est là pour participer, passer un moment... On va dire, joyeux. Hein. Le carême, c'est aussi la joie, hein, je le rappelle quand même. Voilà, c'est aussi la joie. Donc voilà, je crois que nous avons déjà des personnes qui se sont manifestées.
Nous avons Jacqueline et Jean-Mathieu.
Sœur Jacqueline,
Sœur Jacqueline,
Marie.
Jean-Mathieu.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Sœur Jacqueline. On a également Jean-Mathieu avec nous. Bonjour Jean-Mathieu.
Ah bah oui, longtemps qu'on l'a pas entendu.
Ça va?
Bonjour.
Vous allez bien
ça
tous les deux? Oui.
Ça va, merci.
Bonjour Jean-Mathieu.
Bonjour.
Eh bien écoutez, c'est super de commencer avec vous et n'hésitons pas à proposer à d'autres personnes de venir jouer avec nous, avec Sœur Jacqueline Marie, avec Jean-Mathieu. N'hésitez pas à participer. Je crois que d'ailleurs que la dernière fois, nous avions 4 plus
oui,
Sandrine,
4.
Plus moi, on faisait 6 plus, je compte pas les animaux de la ferme. La brebis, ça fait 7.
Ni les auditeurs.
Les auditeurs.
Et tous les auditeurs.
Il y a déjà un message, un SMS? Non. D'accord.
De vendredi, j'ai manqué, moi.
Oui, de vendredi, c'est noté d'ailleurs, Jean-Mathieu, j'ai noté de vendredi absent. Donc, ouais. Voilà, c'est pas bien. Alors, on va commencer, on va démarrer avec Sœur Jacqueline Marie pour la première question.
Oui.
Sœur Jacqueline Marie, donc des questions soigneusement sélectionnées, très très difficiles, parce que je savais que vous alliez appeler Sœur Jacqueline Marie.
Alors, tout de suite.
Nous avons aussi Mireille qui vient nous rejoindre et il y a un autre appel.
Ah, Mireille. Bonjour Mireille.
Bonjour Jérôme.
Voilà, bienvenue dans ce quiz biblique.
Merci.
Alors, Villefranche pour Jean-Mathieu, la Suisse pour Sœur Jacqueline Marie et le Grand Est, mais je ne sais jamais dire le nom de la ville. Je suis désolée Mireille.
Burnot-le-Haut, sinon Mulhouse, c'est plus
facile. Mulhouse, non?
On va dire, voilà, proche de Mulhouse. Je vais m'entraîner un jour à dire le nom de la ville. Bon, on verra
et
ça.
Nous avons aussi Marcel qui vient nous rejoindre.
Ouh là là.
Voilà. Jérôme doit prendre des notes.
On va être bientôt tout alors.
Il va falloir l'aider. Hein. Donc, bonjour Marcel, merci d'être avec nous.
Voilà, 4 personnes, c'est super. On va commencer avec Sœur Jacqueline Marie.
Oui.
Alors, Sœur Jacqueline Marie, quel est le sens du jeûne dans la tradition hébraïque, dans l'Ancien Testament? Toujours 3 possibilités, Sœur Jacqueline Marie. Le sens du jeûne dans l'Ancien
oui.
Testament. Le jeûne dans l'Ancien Testament, un élément rituel de purification, un exercice de santé corporelle, ou bien troisièmement, un moyen de développer l'éveil des sens.
Je dirais la première.
Et oui, Sœur Jacqueline Marie, il n'y a pas d'hésitation.
J'habite à une commune près de Toulouse qui s'appelle Tournefeuille.
Tournefeuille, dans le sud-ouest. Très bien. Donc,
c'est tournesol.
Non, commence pas.
Non, mais il y a peut-être
c'est
des tournesols.
On tourne les feuilles chez nous, on les tourne.
Voilà, on lit.
Ah bon,
on lit
ah bon.
Chez Marcel, on lit, on tourne les feuilles. Mais il peut y avoir des tournesols et tournefeuilles aussi, hein, c'est pas impossible.
C'est difficile de tourner le sol comme ça tous les jours.
Alors, Sœur Jacqueline Marie a très bien répondu à la première question. Effectivement, c'est un élément rituel de purification dans l'Ancien Testament. Le jeûne est un élément parmi d'autres rites de purification. Le but, c'est de rendre un culte à Dieu. Il y a évidemment des éléments d'ablution, par exemple, etc. Et la différence avec le Nouveau Testament, c'est que dans le Nouveau Testament, le jeûne...
Sono io, sono qui.
Si, Marcella. Marcellina?
Sì, mi chiama Marcella da Tournefeuille fra Toulouse.
Sì.
Toulouse.
Si, mais à Tolosa, en Italie ou en France?
Non, en France. Restons chez nous. Il y a le Covid.
Oui, bon, ça c'est tout le monde. Hein. Même ceux qui ne l'ont pas, l'ont.
Et pareil, ouais.
Alors, dans le Nouveau Testament, le jeûne, c'est plus seulement un rite de purification, c'est aussi destiné, bien sûr, aux épousailles avec l'époux oui. qui est le Christ. Voilà, et si nous ne nous sentons pas suffisamment la présence de l'époux avec nous, en nous, il est bon de jeûner pour accueillir les noces de l'agneau. Voilà, plus le sens qu'a pris le jeûne, pour, bien sûr, pour les chrétiens, avec le Nouveau Testament.
C'est pas mal, tu nous l'as rappelé, ça.
Eh oui, ouais. Eh oui. Eh bien voilà, on a commencé avec Sœur Jacqueline Marie par une très très bonne réponse. On va continuer avec Jean-Mathieu, je crois qu'il était le deuxième à appeler. Jean-Mathieu ?
Oui.
Alors là, on part dans le désert. Hein. On part dans le désert.
Ah là là. Ouf, ah là là.
Il fait chaud, il n'y a pas beaucoup à boire.
On va transpirer là. Hein.
Là, on va transpirer. Alors, tout le monde a entendu parler de la première tentation. Hein. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être oui. mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et il répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors la question pour Jean-Mathieu, c'est contre quelle tentation? Alors je précise tout de suite, c'est une interprétation d'un exégète, il peut y en avoir d'autres. Hein. En tout cas, contre quelle tentation Jésus doit-il lutter, cette première tentation? Trois possibilités, Jean-Mathieu.
Oui.
Celle d'assouvir sa faim, première. La deuxième, celle de réaliser un miracle, hein, transformer les pierres en pain. Et la troisième, celle du bien-être et de l'autosuffisance.
Le bien-être et l'autosuffisance.
Et oui, Jean-Mathieu répond parfaitement
super,
bien.
Super, super.
Et oui. Et oui, la tentation contre laquelle Jésus doit résister, c'est ni de se remplir l'estomac, hein, ou de produire un repas d'une manière plus ou moins miraculeuse. La faim, c'est ici le prix d'un choix délibéré, c'est ce choix du renoncement qu'a fait Jésus, et non pas la conséquence qu'est la faim qui est au cœur de la tentation.
Ah oui, c'est ça, ouais.
Super.
Et d'ailleurs, le tentateur ne propose pas de nourrir Jésus, hein. Il ne vient pas glisser un plat délicieux sous le nez de Jésus, car alors ce serait faire de la satisfaction de la faim la matière de la tentation. Non, le tentateur n'est pas idiot, hein. Il a très bien vu que Jésus est son véritable ennemi. Non, la matière.
Et même il lui dit jette-toi du toit de.
Alors, ça, c'est dans les autres tentations qui vont suivre.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et donc, la matière de la première tentation, c'est donc d'abandonner cette posture qui consiste à se mettre soi-même en situation de manque. Voilà pourquoi le tentateur ne propose pas de faire quelque chose pour Jésus à la place de Jésus. La tentation dont il est question, c'est celle de ne pas aller au désert, de renoncer au miracle qui pourrait y germer. De renoncer à y attendre le service des anges. Et oui. Voilà, donc Jésus ne s'est pas laissé piéger par une définition close de sa propre nature. Il ne nourrit pas que de sa nature divine, il se laisse nourrir par la divinité. Voilà, passivité, c'est cette réceptivité à l'autre, à l'inconnu, qui peut effectivement mettre à mal le tentateur. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que dans notre modernité à nous, on balise nos désirs. On est dans une sphère réaliste. On veut conformer l'humanité dans une espèce de sphère sécurisée.
Ah, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais.
Voilà, donc c'est une belle interprétation, je trouve, hein, pour la première tentation au désert.
Oui.
Voilà, une très bonne réponse.
Comme on dit, il faut s'abandonner complètement.
Voilà, et il faut peut-être accepter ce renoncement pour quelque chose de plus grand encore qui nous attend. Eh bien, en tout cas, deux bonnes réponses pour Sœur Jacqueline Marie, pour Jean-Mathieu. On continue avec Mireille.
Oui, j'ai intérêt à faire bien. Hein.
Ah là, Mireille.
Ah là là, quelle pression.
Une pression considérable. Alors Mireille, la question, elle est courte. Oui. Dans quel lieu, quel endroit se déroule la troisième tentation? Là, tout à l'heure, on a parlé de la première. Dans quel lieu, quel endroit se déroule la troisième tentation? Mireille, trois possibilités. Une montagne, le désert ou à Jérusalem au temple.
Dans le désert toujours, parce que les trois tentations qui étaient là, non?
Dans le désert pour non. Mireille. Alors que pense...
Une montagne pour moi.
Pour Marcel?
Oui.
Eh bien oui, Marcel, c'est la montagne.
Oui, c'est la montagne.
C'est la bonne réponse. Je redis le passage. Alors, Vous trouvez le détail de ces tentations, bien sûr, dans deux évangiles en particulier, hein, c'est chez Matthieu et chez Luc. Chez Marc, c'est beaucoup plus...
Ça fait pas longtemps qu'on l'a vu, en plus.
C'est très court. Alors, chez Matthieu, par exemple, le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai...
C'est ça que je disais tout à l'heure, là.
Voilà. Alors, tout à l'heure, ce que tu disais, Jean-Mathieu, c'était le temple à Jérusalem. C'est l'autre lieu. Il y a trois lieux. Hein.
Oui, mais je me suis trompé, au final.
Il y a ces trois lieux. Le désert, bien sûr, où est Jésus, où il est tenté, mais le diable qui lui propose de l'emmener à la fois donc, dans la deuxième et la troisième, la montagne et le temple de Jérusalem. Et là, c'était la montagne. Eh bien, nous sommes avec Marcel, cette fois.
OK.
OK, Marcel.
I'm ready.
Are you ready?
Yeah.
All right. Let's go. Alors Marcel, cette fois nous allons dans l'évangile de Matthieu. Alors il y a une espèce de dispute, une controverse qui oppose Jésus aux pharisiens. Enfin il y en a plusieurs, mais en tout cas on va parler de celle-là. Alors selon ces contradicteurs, de qui provient le pouvoir d'exorciste de Jésus? Selon donc ses opposants, de qui provient son pouvoir d'exorciste? Trois possibilités.
Satan.
Et oui, c'est une bonne réponse, pas besoin d'aller plus loin. Hein. Alors, plus précisément, le texte nomme Belzéboul. Alors, dans Matthieu 12, verset 24, celui-là n'expulse pas les démons, les démons que par Belzéboul, le prince des démons. Alors, ce Belzéboul, qui est-il? C'est une divinité cananéenne dont le nom signifie Baal, le prince.
Et
le prince des démons, la tradition monothéiste en a fait le prince des démons, effectivement. Alors, déclarer que Jésus expulse les démons par Belzéboul, c'est l'accuser de faire quoi? De faire de la magie au nom d'un esprit satanique. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on peut remarquer que la contestation des pharisiens ne porte pas sur les exorcismes de Jésus et leur efficacité, qui sont là, mais efficacité qui n'est pas niée, mais sur l'origine de son pouvoir.
Ben, parce que c'est le grand étonnement. Ils sont tellement orgueilleux de reconnaître que c'est merveilleux. Donc,
et voilà.
Ils doivent trouver une excuse.
Très, très bonne réponse, Marcel. Et très bon commentaire. Et on continue avec Sœur Jacqueline Marie.
Oui.
Et nous restons,
et
nous restons dans ce récit de la controverse. Toujours avec cette controverse avec les pharisiens. Jésus va répondre par l'ironie. Comment peut-on lutter contre le mal au nom du mal? Ainsi, l'exorcisme est efficace, c'est qu'il vient de Dieu. Alors, chez Matthieu, on trouve la formule « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. » Mais dans le parallèle, chez Luc, on a une autre formulation utilisée par Jésus. Que dit-il? Que dit-il à la place de l'Esprit de Dieu? Alors, Sœur Jacqueline Marie, trois possibilités. Est-ce qu'il utilise l'expression par le doigt de Dieu, ou bien par la puissance du Très-Haut, ou bien par mon Père? Quel est donc le terme utilisé dans Luc?
Par la puissance du Très-Haut.
Par la puissance du Très-Haut pour Sœur Jacqueline Marie. Alors est-ce que Jean-Mathieu, Mireille, Marcel?
Moi je dirais la troisième.
Belzébul chasse le démon. Il dit que si c'est par le démon, le Belzébul, il reprend le mot d'ailleurs, le nom quelque part.
Alors en fait, non, la phrase chez Matthieu, c'est « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. » Mais dans Luc, il y a une autre expression. Il ne dit pas « Si c'est par l'Esprit de Dieu », mais par...
Alors, par le doigt de Dieu.
Par mon Père, par le doigt de Dieu. Qui a dit ça? Jean-Mathieu?
C'est Matthieu.
Oui.
Et c'est une bonne réponse, c'est par le doigt de Dieu, dans l'expression chez Luc.
Oui, mais moi j'entendais, quand j'entendais parallèle en fait, parce qu'il y a encore la même, enfin, il redit cette phrase mais dans une autre formulation en reprenant tout au début.
Oui.
Si c'est par Belzébul que moi je chasse les démons et vous,
voilà, mais
avec
ça, c'est...
quoi? Voilà, c'est ça,
oui,
cette
ça,
formulation.
C'est... Ça, c'est... Oui, ça c'est juste avant. Mais là c'était bien la phrase, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Chez Matthieu, mais effectivement chez Luc, c'est par le doigt de Dieu. Vous trouvez ça au chapitre 11, verset 20. Et c'est intéressant parce que cette formule chez Luc, certains exégètes pensent qu'elle est plus juste et plus originale. La formule par le doigt de Dieu apparaît rarement d'ailleurs dans la Bible hébraïque, hein, dans l'Ancien Testament, mais elle est quand même mentionnée. Exemple.
Ouais.
Alors peut-être justement qu'elle est peut-être plus juste cette expression par le doigt de Dieu, parce qu'elle est citée, même si ce n'est pas souvent, elle est citée dans l'Ancien Testament en Exode, livre de l'Exode au chapitre 8, verset 15, dans le combat qui oppose Aaron à Pharaon. Et on sait que Aaron défie Pharaon par des signes miraculeux pour qu'il autorise les Israélites à partir du pays d'Égypte. Et si vous regardez bien dans ce passage, c'est la troisième plaie. La troisième plaie, c'est une invasion de moustiques sur les hommes et sur les animaux. Alors les magiciens d'Égypte essaient eux aussi de produire des moustiques, mais ils n'y parviennent pas. Alors ils s'exclament, stupéfaits devant le succès d'Aaron, « C'est le doigt de Dieu ». Voilà, ça n'empêchera pas le cœur de Pharaon de rester endurci. Mais le doigt, effectivement, le doigt désigne une intervention efficace. Voilà pour cette différence entre Matthieu et Luc, hein, dans cette même phrase. Un qui utilise « si c'est par l'Esprit de Dieu » et l'autre par le doigt de Dieu. Eh bien, nous poursuivons ce quiz biblique, chers amis auditeurs. Et je n'entends pas beaucoup la petite brebis.
Mais oui, quoi, même... Ah, quand même.
Quand même, Sandrine, réveille.
Oh, toi qui dors.
Oh. Alors, nous sommes avec Jean-Mathieu pour la question suivante. Jean-Mathieu.
Oui.
Alors, à côté des exorcismes dont on vient de mentionner quelques passages, à côté de ces exorcismes, Jésus réalise aussi beaucoup de guérisons. Alors, lequel, parmi les évangiles qui vont suivre, lequel a conservé la mémoire, plus que tout autre, des gestes thérapeutiques du Nazaréen? Vraiment, on parle des gestes que fait Jésus. Lequel de ces trois évangiles a conservé vraiment la mémoire de ces gestes? Alors, trois possibilités. Est-ce que c'est chez Matthieu, chez Marc ou chez Luc? On trouve vraiment décrit.
Luc, je pense.
Luc pour Jean-Mathieu. Non. Alors, sœur Jacqueline-Marie, Mireille.
Moi, j'irai Matthieu.
Matthieu pour sœur Jacqueline-Marie.
Et mais est-ce... Bah, c'est Marc.
Donc, il y avait Matthieu, Luc et qui?
Et Marc.
Marc. Et Marc. Ouais, moi, je dirais Luc.
Luc.
Chez Matthieu.
Chez Matthieu, bah, c'est marrant, tout le monde a répondu, mais aucun n'a parlé de Marc, et c'est chez Marc.
Heureusement que mon frère n'est pas là, il n'en voudra pas. Mon frère n'est pas à côté de moi.
Et oui,
Marc,
c'est chez...
Marc, Matthieu, et Marc, on n'a pas dit. Hein.
Alors, c'était Matthieu, Marc et Luc, et c'est chez Marc qu'on trouve ces passages. Alors, j'en citais deux, hein. Il y a le toucher, il y a l'usage de la salive, par exemple, à un sourd muet. Jésus met les doigts dans les oreilles, utilise sa salive et lui touche la langue. Eh bien ça, c'est dans Marc, chapitre 7, verset 33. Mm-hmm. Également, à un aveugle, il met de la salive sur ses yeux et lui impose les mains. Ça, c'est au chapitre 8, verset 23. D'ailleurs, la vertu curative de la salive était connue des anciens. Voilà. Ça, on entend la petite
colombe.
Ah, qu'est-ce que tu fais là, la petite colombe? Eh bien, nous sommes toujours dans le quiz biblique. Et nous continuons cette fois avec Mireille.
Oui,
Mireille.
Je vous écoute.
Mireille, c'est à nous.
Oui.
Alors, les guérisseurs, bah, écoutez, il y en avait quand même plusieurs hein, du temps de Jésus. Jésus n'était pas le seul. Alors, vu de l'extérieur, hein, les actes thérapeutiques de Jésus devaient à peine se distinguer de la médecine populaire de ce temps. Et on l'a vu tout à l'heure hein, avec l'accusation hein, qui taxe ces guérisons comme étant l'œuvre de Belzéboul. Mais la question, la voilà, qu'est-ce qui différencie quand même les actes thérapeutiques de Jésus des autres guérisseurs de son temps? Alors attention Mireille, plusieurs bonnes réponses possibles. Premièrement, Jésus ne manifeste jamais son pouvoir de façon néfaste ou en vue de nuire. Deuxième possibilité, Jésus ne se fait pas rétribuer pour ses guérisons. Troisième possibilité, Jésus ne recourt à aucune formule incantatoire.
C'est les trois.
Eh bien oui, c'est les trois. Eh oui, Mireille.
C'est les trois.
C'est les trois.
Merci, oui. Marcel.
Merci.
Pardon, j'ai parlé, mais c'était trop flacon.
Ah, Marcel, et Marcel va perdre son tour, hein, parce que Marcel a parlé à la place de Mireille.
Ouais, je lui donne mon tour.
Non, c'est bon. Oui, effectivement, ben, oui, c'est les trois. Hein. Jésus ne se fait pas rétribuer pour ses guérisons, il ne recourt à aucune formule incantatoire, il ne fait pas exhibition de ses charmes magiques, Il ne prétend pas non plus faire pression hein, sur la divinité pour obtenir ce qu'il veut. Ça, ce sont des caractéristiques typiques de la magie ancienne qui font totalement défaut dans les évangiles. Pour répondre au
et
téléphone.
Et il le fait en public. Alors, est-ce qu'avant, eux, ils faisaient leur magie en public ? Peut-être qu'on va ajouter ce quatrième point, je ne sais pas.
Oui, c'est possible que les autres guérisseurs pouvaient le faire en public, les deux d'ailleurs.
D'accord.
En privé ou en public. Ça, on n'a pas de... Mais c'est possible, hein. Mais en tout cas, voilà la grande différence hein, dans la thérapie, le geste thérapeutique. Téléphone.
Ah. C'est pas moi, je suis pas là.
C'est Sandrine, tu as un appel. Ah oui, de toute façon, ouais. Jésus enseigne, guérit en public. Hein. Alors, sauf peut-être quand il est invité,
public, oui.
Quand il est invité peut-être même dans une chambre, il y a du public. Mais à un moment, je sais qu'il chasse les personnes qui sont là parce qu'il a besoin d'être seul avec le ou la malade.
Les parents.
Mais il ne s'en cache pas, quoi. Voilà, il ne fait pas ça dans une hutte cachée dans la brousse. Voilà, bref.
Oh, quel cliché.
Oh, le cliché.
Le cliché, à deux balles. Hutte.
Ah, parce qu'il faut quand même, préciser qu'aujourd'hui encore, au moment où on parle, il y a toujours des guérisseurs hein, qui ont des formules.
Aujourd'hui, ils sont dans les immeubles. Hein.
Et il y en a même dans les immeubles. Mmh. Tout à fait. Alors, Marcella.
Dimmi.
Question suivante. Pour Marcel.
Mais donne mon tour à Mireille. Hein.
Non, Marcel, il faut que tu ailles jusqu'au bout.
D'accord.
Alors... Lequel des signes suivants singularise justement la pratique thérapeutique de Jésus ? Quels sont donc ces signes qui singularisent la pratique thérapeutique de Jésus ? Également plusieurs bonnes réponses possibles. Alors premièrement, les guérisons sont le signe de l'irruption du règne de Dieu. Deuxièmement, elles se réalisent sans le consentement du malade. Troisièmement, elles sont liées à la foi de la personne malade.
Premier et troisième.
Et oui, excellente réponse.
Ah ben voilà, tu as bien pris le pouvoir, c'est bien.
Et oui, première, troisième réponse. Très très bonne réponse de Marcel.
Bravo.
Et
Mireille.
Les guérisons de Jésus inscrivent au corps de l'homme l'irruption du règne de Dieu. On peut se souvenir des paroles de Jésus en vous envoyer de Jean. Vous savez, quand Jean-Baptiste était emprisonné, il envoie des personnes. Que répond Jésus ? Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà, contrairement aux autres guérisseurs dont on parlait à l'instant, Jésus a l'ambition de faire intervenir le règne divin par son activité de guérisseur. Chaque miracle est une activation du règne de Dieu dans le monde. Et le deuxième trait dont on a parlé, c'est que Jésus lie fortement pour lui l'efficacité thérapeutique à la foi de la personne.
La foi, oui.
Hein, on trouve « ta foi t'a sauvé » chez Marc, chapitre 5, dans Matthieu, « qu'il advienne selon ta foi ». Et on peut parler vraiment d'une synergie très proche hein, entre le guérisseur et le malade, entre Jésus le thaumaturge et le malade. Alors au père de l'enfant épileptique, si vous vous souvenez, qui le supplie de venir à son secours, Jésus répond « Tout est possible à celui qui croit ».
Qui a la foi.
Il n'est pas dit que celui qui croit peut tout faire, il est dit que Dieu rend tout possible en faveur de celui qui croit. Et donc les deux partenaires, Jésus et le malade, participent ensemble à la foi en la puissance guérissante de Dieu. Et les miracles...
Comme disait quelqu'un dans l'émission cet après-midi... Voilà, Dieu ne nous sauve pas sans nous.
Exactement. Et les miracles de Jésus sont le résultat d'une conviction partagée dans un monde meilleur qui est en train de naître en puissance et la réalisation partielle de ce monde meilleur. Chaque guérison rétablit la personne dans son juste rapport à Dieu. C'est pas juste soigner une maladie, ça va plus loin. Et je crois que nous avons un SMS.
Deux
SMS. Boudiou, il faut que je le garde.
Regarde ça très vite même.
Ah oui, non, mais il ne veut pas s'ouvrir le truc. Voilà. Malgré le froid polaire, je suis là, Flo du Nord. Bonjour Florence. Bonjour, bonjour à Radio Maria, à tous, bon quiz biblique. Bonjour à Sandrine et à Jérôme. Voilà, Florence.
Et à Marcel et à Mireille et à la sœur.
Oui. Oh là là, vraiment, on lui dira la prochaine fois hein, qu'elle cite tout le monde.
Oui.
Eh bien, nous poursuivons avec la question suivante pour Sœur Jacqueline Marie.
Oui.
Sœur Jacqueline Marie qui tombe, évidemment, c'est pas de ma faute, hein, Sœur Jacqueline Marie, ça dépend des arrivées, de qui appelle en premier, mais sur la question...
Non, il n'y a aucune qui est difficile cet après-midi.
Voilà, enfin bon, c'est pour Sœur Jacqueline Marie, attention, écoutez bien.
Oui.
Il faut chercher l'intrus parmi les trois êtres suivants. Chercher celui qui est en trop. Trois possibilités, Sœur Jacqueline Marie. Le rossignol, le ouistiti ou le colibri.
C'est ancien ou Nouveau Testament, ça?
Comme vous voulez. C'était au début, hein, c'est vraiment la Genèse, au tout début de la Genèse. C'est la question qui n'a rien à voir, hein, je vais oublier de le préciser, mais là, je pense que vous l'avez bien compris. Le rossignol, le ouistiti ou le colibri, quel est l'intrus, Sœur Jacqueline Marie?
Le ouistiti?
Eh bien, c'est sûr, c'est le ouistiti. Et pourquoi le ouistiti? Bah parce que...
C'est parce qu'il n'est pas là. Tout simplement, il n'est pas là. On parlait des oiseaux.
Parce que le ouistiti, c'est un genre de
singe.
Et oui, c'est un singe du Nouveau Monde.
Eh oui.
Le long de la côte est du Brésil, au sud de l'Amazone, hein, les ouistiti qui se sont diversifiés en une vingtaine d'espèces. Ils ne sont pas très lourds, hein, ils pèsent entre 120 et 400 grammes.
Oui, ils sont tout petits.
Tout petits, leur pelage peut être blanc, sombre ou bien bicolore.
Tu peux le mettre dans la poche.
Oh, quand même pas. Non.
Tu peux le mettre dans la poche.
Et oui, donc le ouistiti, ben, bien sûr, on a des oiseaux autour, rossignol, le colibri. Voilà, très très bonne réponse de Sœur Jacqueline Marie.
Ah ben tant mieux.
Qui est tombée sur la question qui n'a rien à voir.
Ben oui, parce que je me demandais pourquoi on posait cette question.
Ben moi aussi. C'est dans le jardin de...
Voilà, on continue avec Jean-Mathieu.
Oui.
Jean-Mathieu, question, qu'est-ce qui est au centre de la prédication et de l'activité de Jésus dans son ministère? Vraiment, ce qui est au centre de sa prédication et de son activité dans tous les évangiles. Trois possibilités, Jean-Mathieu. Le retour à la souveraineté d'Israël, première possibilité. Deuxième possibilité, la guérison des malades. Troisième possibilité, le règne de Dieu.
Le règne de Dieu.
Et oui, sans hésitation, oui. Très bonne réponse.
Bravo! Ah, il a eu droit au jingle, là hein.
Ah oui, il a eu droit au jingle. Sandrine, elle a ses têtes. Hein.
Oui, nous, on a rien. Hein.
Ah, on a compris, Sandrine. Hein. Maintenant, on fait tout. Hein. Nous sommes les mal-aimés.
Alors voilà, c'est une très bonne réponse de Jean-Mathieu. Oui, ce règne ou royaume de Dieu est au centre de la prédication et de l'activité de Jésus. Et pourquoi? Parce que la formule, alors les exégètes, vous savez, ils s'amusent à faire des additions. La formule règne de Dieu, ou dans sa version chez saint Matthieu, c'est « Royaume de Dieu », se lit à 65 reprises dans les évangiles. 65 reprises.
Ah, quand même.
L'expression apparaît dans tous les types de discours de Jésus, les paraboles, les exhortations, les controverses, les sentences. Et les spécialistes pensent vraiment qu'il s'agit d'une expression de son langage propre.
Et de sa mission, parce qu'il est venu quand même pour faire connaître le Royaume de Dieu.
Bien sûr, tout à fait. Et les écrits, quand même. Les écrits d'ailleurs du judaïsme, parce que c'est toujours bon de comparer avec Jésus et juif, hein, juif de son temps aussi. Et les écrits du judaïsme du Second Temple, même s'ils réfléchissent à la royauté de Dieu, ils recourent rarement à cette formule. Et d'ailleurs, cette formule va décroître un tout petit peu avec les premiers chrétiens. D'ailleurs, l'apôtre Paul la cite très très peu, et l'évangile de Jean encore moins. On la trouve vraiment chez Matthieu, Marc et Luc. Voilà ce que je voulais noter. Il y a quelqu'un qui écrit dans mon dos, là. Voilà, très très bonne réponse.
Jean-Mathieu avec le règne de Dieu.
Je suis Mireille cette fois.
Oui.
Mireille.
Je vous écoute.
Alors, dans la question précédente, on a parlé rapidement du Second Temple. On a parlé des écrits du judaïsme, donc de cette période du Second Temple, mais en réalité, cette période, elle recouvre quelle période dans le temps de l'histoire d'Israël? De quelle période parle-t-on quand on parle de Second Temple? Trois possibilités. Est-ce que c'est la période qui va du roi Salomon jusqu'à la destruction du Temple par Nabucodonosor? Deuxième possibilité, la période qui s'étend du retour de l'exil de Babylone jusqu'en 70 après Jésus-Christ? Troisième possibilité, la période qui commence avec Hérode, qui réalisa d'ailleurs une extension massive du temple jusqu'à sa destruction en 70. Quelle période ?
Oh là là, oh là, ça tombe sur moi. Hérode.
Parce que tu t'es vengé tout à l'heure.
Pourtant, je l'avais gardé pour Sœur Jacqueline Marie, celle-là, je ne comprends pas, mais c'est, voilà,
ah,
c'est
bah,
le hasard.
Tant mieux. Pas toujours les mêmes. Hein.
Alors, la troisième possibilité, troisième réponse pour Mireille. Est-ce que vous êtes d'accord tous
Moi, je dirais retour à Babylone.
Retour à Babylone pour Marcel, et c'est la bonne réponse. Et oui, c'est la période qui s'étend du retour de l'exil de Babylone jusqu'en 70. Oui, le premier temple, alors pour distinguer, il faut comprendre, ouais. Le premier temple, bah, c'est le temple construit par Salomon.
Salomon.
Par le roi Salomon au Xe siècle avant Jésus-Christ quand même, hein, ça remonte. Et ce temple a été entièrement détruit donc par Nabucodonosor en 586 avant Jésus-Christ.
Ouais.
Donc, hop, terminé le premier temple. Le deuxième temple fut construit effectivement au retour de la captivité des Juifs à Babylone. Les Juifs ont été en exil à Babylone. Ils construisent et reconstruisent le temple.
Ça y est.
Antoine qui est en train de construire,
oui. Tombe,
elle est en train de tout démonter en régie. Il n'y aura plus de direct sur Radio Maria pendant un mois. Le temps de réparer.
C'est Sandrine qui fait ça ?
Oui. Ah oui, non, Sandrine, elle fait tout.
La pioche, le marteau, elle a
attends,
tout.
Marteau et tout. Oh, la fille de Maman Marie, là, elle a des diplômes de tout, quoi.
Ah bah, c'est une fille de charpentier, hein.
Oh, ah, c'est trop beau.
Bon, ben, on va la laisser faire ça. Alors, donc, ce deuxième temple, il a été terminé le 12 mars 515. J'étais surpris, parce que les historiens ont la date précise, hein, 12 mars 515 avant Jésus-Christ. Ce deuxième temple est terminé. Et puis, alors, lui, Hérode...
12 mars, combien ?
515.
Ok, 515.
Le temple d'Hérode fut une extension. Alors, Hérode, il a construit, il a voulu agrandir le temple, mais un gros agrandissement. Mmh. Il a fait rénover le mont du temple, etc. etc. Alors, évidemment, la période s'arrête quand ? Elle s'arrête pourquoi ? Elle s'arrête en 70, après Jésus-Christ, parce que ce temple va être détruit par les armées romaines et par Titus. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste les murs de soutènement de l'esplanade, qui avaient été construits par Hérode, d'ailleurs, et puis aussi les restes des arches qui permettaient l'accès à l'esplanade. Voilà tout ce qui reste du temple aujourd'hui.
Ah, il faut faire des quiz tous les jours, hein ?
À tous les jours, là.
Oh, vous l'aviez gardé pour moi, mais j'aurais su.
Ah ! Alors, nous continuons avec Marcel, c'est ça ?
C'est maintenant moi, oui.
Marcella.
Dimmi.
Alors, avant même le temps de la prédication de Jésus, presque tout le monde en Israël attend, avec un degré variable de fébrilité, attend la fin de ce monde et la venue du Dieu roi ou de son représentant. On sait que le pouvoir a échappé de plus en plus au peuple et à ses représentants. Donc l'attente d'une intervention massive de Dieu s'est renforcée avec les malheurs politiques d'Israël, puis l'occupation romaine dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors quelles sont pour les Hébreux les évocations de ce tournant de l'histoire tant attendu ? Attention, plusieurs bonnes réponses possibles. Alors est-ce que c'est la fin de Satan ? Deuxième possibilité, l'extermination des impies. Troisième possibilité, le pèlerinage des nations à Jérusalem. Quatrième, il y en a quatre. Possibilité, le jugement dernier. Quelles sont pour les Hébreux les évocations de ce tournant de l'histoire tant attendu ?
Je ne sais pas pourquoi je pense à l'extermination des impies, parce que...
Il y a plusieurs bonnes réponses possibles, attention.
Ah ouais, alors, jusqu'à 4, j'ai oublié déjà, retenu.
Alors, la fin de Satan, l'extermination des impies, le pèlerinage des nations à Jérusalem et le jugement dernier.
Ah ben les trois derniers quoi en fait.
Les trois derniers. Alors, Sœur Jacqueline Marie.
À partir des
MP. La deuxième et la quatrième.
Moi j'aurais dit le pèlerinage.
Le pèlerinage.
Deuxième, troisième.
Et le dernier.
Et le dernier.
Bah oui, dans les trois derniers.
Et Jean-Mathieu ?
Ah ben je dirais le premier moi.
Le premier, la fin de Satan. Eh bien voilà, avec Jean-Mathieu on complète tout parce que c'est les quatre. Les quatre sont justes.
Ah. Bon voilà.
Pardon.
c'est le plus grand des impies, Satan.
la fin de Satan, l'extermination des impies, le pèlerinage des nations à Jérusalem, le jugement dernier. On peut même en rajouter d'autres, hein, la résurrection des morts, le renouvellement de la création. Et puis, parmi cette attente, hein, il y a aussi une minorité d'activistes, hein, qui s'arment pour préparer l'avènement de la théocratie divine, le retour de Dieu, roi d'Israël, le vrai roi. Et ils formeront d'ailleurs dans les années 50 le mouvement qu'on a appelé Zélote. Et puis vous savez qu'il y avait une secte de purs à Qumran, on a trouvé d'ailleurs des rouleaux dans cette région, et les sectaires de Qumran se préparent à la guerre sainte contre les armées de Bélial, le prince du mal. C'est pour vous donner l'idée de cette attente fébrile, très forte. Quand Jésus commence sa prédication, cette attente est déjà là, elle est installée. Quoi. Mais je crois qu'on arrive au bout là, non ? Et oui, c'est bientôt. Je peux encore une question ? Sandrine me donne l'autorisation. Alors dans ce contexte...
Merci Sandrine.
Merci Sandrine. Sœur Jacqueline Marie.
Merci.
Allez, je vous la pose à tous les quatre. Alors dans ce contexte de cette attente du royaume, hein, pour les Israélites, quelle est la nouveauté étonnante de l'enseignement de Jésus ? Trois possibilités. Alors l'annonce que ce royaume est ajourné en raison des péchés des hommes, première possibilité. Deuxième possibilité, l'avènement du royaume se fera après le départ des impies. Troisième possibilité, que le royaume est venu et a commencé.
La troisième.
Et oui, sœur Jacqueline Marie.
Troisième.
Ça paraissait tellement évident.
Le royaume est venu. Mais c'était pas évident pour tous les contemporains de Jésus, hein, quand même.
C'est à nous qu'on pose des questions, là, maintenant, non ?
Ah oui, la logique de Marcel est imparable. Je ne peux rien faire.
La troisième.
Et oui. C'est la troisième, le royaume est venu et a commencé. C'est le règne attendu pour la fin des temps qui fait irruption dans le présent. Pour Jésus, la séculaire attente d'Israël touche à sa fin, ou comme le dit l'évangéliste Marc quand il résume le message de Jésus, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Chapitre 1, verset 15. Chers amis, merci beaucoup d'être tous venus participer à ce quiz biblique, y compris ceux qui ne sont pas venus. Merci Florence qui envoie toujours des SMS fidèlement. Et merci vraiment à tous les quatre. Merci beaucoup, sœur Jacqueline Marie, Mireille, Marcel, Jean-Mathieu.
On veut le jingle.
On veut le jingle, Sandrine. The Bible. You have to read the Bible.
Yeah, every day now.
Every day now. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci infiniment.
Merci beaucoup et bon week-end en union de prière.
En union de prière. À très bientôt.
Au revoir.